Oui, Seigneur Jésus, c'est vrai que c'est important aussi que tu puisses nous offrir ton esprit encore ce matin, à travers ma bouche, mais à travers aussi le cœur de chacun, les oreilles de chacun, que tout le monde puisse entendre ta parole et que ce soit toi qui sois pleinement glorifié. Ouais. Amen. Bonjour, alors moi je m'appelle Alexandre, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le mari de Laetitia, on a 3 enfants, des petits, enfin des grands maintenant, hein, ça commence à grandir. Je suis évangéliste avec France Évangélisation et membre de cette église. Alors je suis sûr que ce matin, vous êtes dégoûtés de ne pas être derrière avec les enfants à manger de la galette. Hein ? Ouais, moi je suis d'accord. Ouais. Laetitia quand elle m'a dit qu'elle faisait un gâteau pour les enfants, moi je me disais, mais pourquoi je prêche ? Pourquoi je ne peux pas être derrière avec les enfants ? Alors ce matin, j'aimerais bien voir avec vous comment est-ce que vous êtes né. Alors bon, personnellement, est-ce que vous êtes né avec un phénomène extraordinaire ? Non, parce que quand moi je suis né, il ne s'est rien passé. C'était nul. Pas de tremblement de terre, pas d'extra truc extra de planète qui brille en plus, pas d'arc-en-ciel. Et du coup, je voulais voir avec vous si vous, quand vous êtes né, il y a eu un signe comme ça extraordinaire qui est venu parce que vous êtes né. Alors ? Non ? Ah, ça c'est bien, la joie des parents, effectivement. Ça c'est déjà un sacré signe extraordinaire, mais ouais, ça concerne que tes parents du coup, tu vois. Et du coup, votre naissance, elle est nulle, quoi. On est d'accord, quoi. Hein ? Non, bien sûr que non. Mais néanmoins, il faut que je vous parle de Mark Twain. Vous connaissez Mark Twain ? C'est celui qui a écrit en 1800... Il est né en 1835 et c'est lui qui a écrit Tom Sawyer. C'était génial, hein, Tom Sawyer, moi j'ai adoré. Et Mark Twain, alors lui, il est né avec la comète Halley. Vous savez, la comète Halley, elle est passée comme ça. Il est né en 1835 avec cette comète. Et la comète, elle a fait une révolution. Donc elle a fait comme ça le tour de la Terre, et quand elle est réapparue sur la Terre en 1910, Mark Twain est mort. Waouh. Alors là, respect pour le bonhomme. Franchement, il naît avec une comète et il meurt avec une comète. Alors là, ouais, ça c'est quelque chose, vous avez vu, c'est un peu, voilà. Alors dans l'Antiquité, quand un roi naît sous un phénomène céleste extraordinaire comme ça, souvent c'est considéré comme un merveilleux présage pour son règne. Alors, par rapport à ma naissance, je me dis que c'est peut-être parce que je ne suis pas roi. Il faudrait que je remédie à cette question-là. On va voir. Ouais. Mais néanmoins, on va prendre un exemple. On va prendre Mithridate. Tu connais Mithridate, Jean-Denis ? Ouais, il y en a eu plusieurs. Hein. Mithridate VI. Mithridate VI, c'est effectivement le grand ennemi des Romains. Alors lui, dans sa propagande, alors on prend ça avec des pincettes, hein, parce que c'est une propagande, mais dans sa propagande, il disait, en 135 avant Jésus, il disait « Moi, je suis né avec une comète ». Et en 111, quand il a eu son couronnement, il y a de nouveau une comète qui est arrivée. « Waouh, ça veut dire que mon règne va être extraordinaire ». Bon, ok. Il est mort en 63, il a été battu par Rome, son fils, il a récupéré la couronne en essayant de l'assassiner, et il fuit ses ennemis. Bon, point de vue règne extraordinaire, on a vu un peu mieux quand même. Mais néanmoins, on voit un peu ces signes comme ça. En 44 avant Jésus-Christ, par exemple, on fête la vie de Jules César qui est mort un peu avant, et on organise des grands jeux. Et pendant ces jeux-là, on a dans les annales une comète très brillante est apparue dans le ciel. Alors pour les Romains, ça voulait dire « Waouh, Jules César a été emmené parmi les dieux de l'Olympe et maintenant il est là-haut avec les dieux de l'Olympe. » Donc vous voyez, on garde comme ça des souvenirs et souvent quand on retrace les archives, soit des annales chinoises, soit de la littérature gréco-romaine, on se rend compte qu'on ne parle pas énormément de signes extraordinaires célestes, parce que souvent, très souvent, on le lie à un signe extraordinaire historique, c'est-à-dire la naissance d'un roi, ou un couronnement, ou une grande bataille, ou quelque chose comme ça. Je vous donne encore un exemple. Par exemple, en 66 après Jésus-Christ, il y a Flavius Joseph qui nous décrit qu'il voit une comète au-dessus de Jérusalem, en forme un peu comme ça d'épée. Et finalement, c'est resté dans les annales parce que l'année suivante et jusqu'en 70, Jérusalem est détruite. Vous avez vu ? Comme ça, on garde des phénomènes extraordinaires apparus dans le ciel parce qu'on les lie toujours à des phénomènes historiques. Et la Bible nous donne un phénomène extraordinaire que Matthieu nous décrit, l'étoile de Bethléem. Un signe cosmique lié à un phénomène historique, lui aussi extraordinaire, la naissance du plus grand roi qu'il y a eu sur terre, Jésus. Alors cette étoile, personnellement, quand moi je discute avec les chrétiens, elle dérange. Cette étoile, elle dérange les chrétiens parce que c'est super bizarre ce truc comme ça qui se balade là dans le ciel, qui s'arrête en plein milieu. Moi ça me dérange. Et les chrétiens, pour quelques-uns, sont assez mal à l'aise. Et quand on demande aux chrétiens de nous donner un peu le récit de la nativité, ben souvent, ils ne parlent pas de l'étoile. Et je suis assez frappé de voir qu'on écarte un peu trop facilement les faits bibliques, parce qu'on ne sait pas les interpréter par rapport à des faits historiques ou scientifiques. Et des fois, ça dérange. Alors, je discutais encore avec beaucoup avec des chrétiens comme ça, et souvent, quand on a des faits comme ça qui ne peuvent pas être souvent prouvés scientifiquement, alors on écarte le fait biblique. Et combien c'est dommage. Et ça, malheureusement, même dans nos églises évangéliques. Non, on ne peut pas croire à la création telle que c'est marqué dans la Bible, c'est biscornu. Non, mais Jésus ne peut pas naître d'une vierge. Non, mais la résurrection, vous y croyez vraiment ? Et tout doucement, on glisse pour écarter la Bible au profit de notre intellect. Mais ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas comment ça s'est passé, qu'il ne faut pas y croire. Et si nous commençons à écarter les passages dans la Bible qui nous posent problème, alors le gros problème, c'est qu'on va pouvoir tout remettre en question de la Bible. Alors on va parler dans un instant justement de la Bible, mais avant ça, on va réfléchir quand même d'un point de vue scientifique, qu'est-ce que c'était que cette étoile ? Alors nous n'avons que deux solutions. La première, c'est soit un miracle. Et donc, si c'est un miracle, on n'a pas besoin vraiment de se casser la tête parce que c'est un phénomène qui transcende nos lois physiques. Ou alors, c'est quelque chose qui a été maîtrisé par Dieu, qui maîtrise les éléments et notre temps, et qui a précisément planifié pour que l'étoile arrive exactement à ce moment-là. Et donc là, nous pouvons nous casser la tête et réfléchir un peu, ou même beaucoup, à savoir qu'est-ce que c'est que cette étoile. Alors, d'après vous, si Dieu a planifié ça de tout temps, et moi je crois fortement que Dieu est le maître de notre temps aussi, et donc si Dieu a planifié ça, à votre avis, qu'est-ce que c'est que cette étoile ? Alors, est-ce que vous avez des hypothèses ? Alors je vous dis tout de suite, ce n'était pas un drone, d'accord ? Ok, ça je vous le dis, comme ça on écarte l'hypothèse du drone. Non, pas de satellite. Alors en tout cas, pas un satellite peut-être naturel, mais pas fabriqué par l'homme. Alors, à votre avis, qu'est-ce que cette étoile pourrait être ? Une planète. Deux planètes, oui. Alors effectivement, on peut réfléchir à la conjoncture de Saturne et de Vénus, où on peut avoir deux planètes qui se mettent un peu ensemble, qui brillent énormément, plus que d'habitude. Alors oui, c'est faisable, mais ce n'est pas la meilleure des hypothèses, parce que le problème des planètes et de la conjoncture des planètes, c'est que c'est trop prévisible. Et les mages ne seraient pas partis avec un phénomène qui était trop prévisible. Et la conjoncture des planètes, effectivement, c'est un peu prévisible. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore comme hypothèse ? Ah non, ah bah ça, alors ça, un ange, ça je ne l'ai pas mis dans mon truc. Non, alors je suis désolé, je cherchais un truc plutôt cosmique, tu vois, pas comme ça. Alors une comète, ça, oui, alors ça, ça peut être une hypothèse, effectivement, et qui tient la route. Alors c'est Colin Nicol qui a beaucoup travaillé, alors ça c'est un prof de Nouveau Testament, il a beaucoup travaillé sur ça, sur les comètes. Alors les comètes, c'est une boule de glace, donc vous imaginez un iceberg en train de filer dans l'espace. Et le problème, enfin c'est pas un problème, c'est que quand ça arrive près du Soleil, ça fond. Ça libère du gaz, essentiellement de l'eau, et du coup, à travers l'eau, les rayons du soleil permettent d'éclairer beaucoup plus fortement cette comète. Alors, la comète, Colin Nicol nous en parle, c'est une théorie qui tient vraiment à la route. Ok, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre encore que la comète ? Alors, le pape François, en 2013, nous parle d'une supernova. Qu'est-ce que c'est une supernova ? Exactement, c'est une étoile qui explose. Alors ça pourrait, et il y en a beaucoup qui en ont parlé aussi, de cette supernova qui pourrait exploser, cette étoile, qui brillerait beaucoup plus qu'une étoile classique. Et finalement, pas sûr que cette théorie tienne, parce qu'on aurait même encore maintenant, 2000 ans après, des traces encore de cette étoile qui aurait explosé. Donc bon. Non, il reste encore une dernière hypothèse. Ce n'est pas une étoile, mais un groupe d'étoiles. Et c'est aussi une hypothèse qui pourrait tenir la route. Et donc, au lieu d'avoir un signe cosmique, on aurait plutôt un signe astrologique. On n'oublie pas que les mages cherchaient des signes à travers les étoiles, un peu comme nos signes du zodiaque actuellement, hein, qu'on a. Dans le temps, ils avaient d'autres signes et il pourrait y avoir, à travers la conjoncture effectivement de planètes, un nouveau signe qui apparaît. Et puis, cette théorie, elle est assez probable aussi, puisqu'on a découvert qu'en moins 6, il y avait un nouveau signe comme ça qui était apparu et qui n'apparaît que tous les 1000 ans, suivant la conjoncture de certaines planètes et d'étoiles. Alors moi, je vous avoue que la comète, c'est ma petite préférée, mais voilà. Vous voyez que des explications scientifiques, on peut en donner. Il y en a au moins deux à travers soit la comète, soit à travers un phénomène astrologique qui pourrait être vraiment solide. D'ailleurs, il y en a qui ont même calculé la naissance de Jésus entre le 16 et le 17 avril moins 6. C'est bon, hein ? Avec la courbure des planètes. Ça reste une hypothèse, c'est pas tout à fait sûr, mais c'est faisable. Effectivement, on voit que Jésus n'est pas né hein, à l'an 0, on est plutôt entre moins 6 et moins 4. Hein. Mais néanmoins, ce n'est pas du tout ce que Matthieu veut nous montrer dans son texte. Matthieu ne nous dit pas, mais c'est comme un filigrane dans tout ce texte. Quand il évoque l'étoile, Matthieu fait directement référence à Balaam. Qui est Balaam ? Est-ce que vous vous souvenez, Balaam ? C'est un prophète. Et un prophète, il est un peu bizarre. Hein ? Il est louche hein, comme prophète. Hein. Balaam, c'est un prophète 1200 ans avant la naissance de Jésus. Il y a Israël, le peuple, là, qui veut traverser un pays. Et puis le roi du pays, il voit ça, il dit « Oh là 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 là, si tout Israël il passe comme ça dans mon pays, ils vont tout me brouter, ça va être misérable. Je vais chercher ce prophète-là qui sait parler à Dieu et je vais lui demander s'il peut maudire Israël. » Et puis Balaam, lui, il veut bien, mais il n'y arrive pas. Et il ne fait que bénir Israël. Et on voit ça dans Nombre 24, 17, où il dit « Je le verrai ». Mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob, et un sceptre s'élèvera d'Israël. Matthieu nous rappelle des paroles d'il y a plus de 1200 ans avant la naissance de Jésus. Mais ce n'est pas tout. Matthieu veut nous montrer autre chose. Il enfonce le clou. Il nous rapporte que c'est que les experts de la loi, vous avez vu, hein, avant, les mages sont venus et ils ont dit, mais où doit naître le Messie ? Et puis, les experts de la loi, pour eux, ce n'était pas une question très difficile. Pour un trivial poursuite, ils auraient vite trouvé. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël. Ça, c'est le prophète Michée, 700 ans avant Jésus. Et Matthieu continue, verset 15. Il resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplît ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Osée 11:1. 725 ans avant Jésus. Alors, on ne l'a pas lu ce matin, mais si on continue juste à lire un tout petit peu le chapitre en bas, encore, les quelques versets en bas, on voit qu'il y a le massacre des enfants par Hérode. Une voix se fait entendre à Rama, des pleurs et une grande plainte. C'est Rachel qui pleure ses enfants et refuse d'être consolée, car ils ne sont plus. Jérémie 31:15, 600 ans avant Jésus. Matthieu nous montre que Jésus est celui qui est annoncé par les prophètes, des fois plus de 1000 ans avant. Et moi, ça me réconforte. Ça me réconforte de me dire que la Bible, elle est juste en tout point. Elle ne comprend pas d'erreur. Elle ne ment pas. C'est ce qu'on appelle l'inhérence et l'infaillibilité de la Bible. Et trop de chrétiens ne veulent pas l'admettre. Vous savez pourquoi ? Parce qu'elle nous dérange. Et c'est Bonhoeffer. Bonhoeffer, c'est un pasteur qui est mort pendant la Seconde Guerre mondiale, qui disait « N'avons-nous pas clairement compris que nous avons cessé d'obéir à la Bible ? Nous préférons nos propres pensées aux pensées de la Bible. Nous lisons plus la Bible, nous ne lisons plus la Bible avec sérieux. » Nous ne lisons plus la Bible contre nous, mais seulement en notre faveur. Ce que Bonhoeffer veut nous dire, c'est qu'à partir du moment où vous lisez la Bible et que quand vous la lisez, elle ne vous dérange pas dans votre vie personnelle, c'est que peut-être on la lit mal. Un ami à moi qui faisait un parcours de disciple avec moi, on faisait ça une fois par semaine. Et puis un jour, il vient comme ça, et puis je dis, alors cette semaine, comment c'était ? Elle était horrible cette semaine, j'en peux plus. À chaque fois que je faisais quelque chose, je sentais que je dois pas le faire. Bah ouais, le Saint-Esprit est en train de remettre ta vie en ordre. Le Saint-Esprit, il est en train de te montrer, non, arrête, fais pas ça. Reviens dans le droit chemin, reviens avec le Seigneur. Et c'est ça la Bible, c'est ça quand on se laisse guider par le Saint-Esprit. C'est vraiment cette envie aussi de plaire à Dieu. Et des fois, il y a des choses, on ne sait même pas que ça ne plaît pas à Dieu. Et le Saint-Esprit nous met le doigt dessus, comme à cet ami. Alors, pour que vous puissiez comprendre la Bible, la parole, hein, je vais prendre un exemple. Attention, ça va chauffer. Ok, pour ceux qui nous écoutent en podcast, je viens de sortir un grille-pain. Ça, c'est mon grille-pain du matin. C'est cool, hein ? Alors, le grille-pain, comme tous les appareils qu'on invente, eh ben, on peut l'utiliser comme ça. Mais quand moi, je l'ai acheté, le grille-pain, il avait un mode d'emploi. Vous savez, ce fameux mode d'emploi qu'on ne lit jamais. Vous avez déjà lu un mode d'emploi ? Personne ne lit. Qui a dit oui ? Sérieux ? Vous lisez les modes d'emploi ? Mais vous êtes des extraterrestres ! Alors, j'avoue que c'est super cool parce qu'il y a des boutons sur mon grille-pain. Je ne sais toujours pas à quoi ils servent. Oui, ben c'est ça à quoi ça sert un mode d'emploi, effectivement. Mais un grille-pain, ce qui est sympa, c'est qu'effectivement, il peut griller mon pain le matin, mais on pourrait peut-être l'utiliser pour tout à fait autre chose, parce que nous sommes libres, non ? On est d'accord ? Vous êtes des gens libres. Et moi, je suis libre de pouvoir utiliser mon grille-pain comme bon me le semble. Je peux très bien mettre une feuille de papier à l'intérieur.
Ne faites pas ça chez vous.
Mais si je fais ça, je casse mon grille-pain et je mets le feu à ma maison. Je pourrais très bien utiliser mon grille-pain parce que je suis libre de l'utiliser comme j'ai envie dans mon bain. Mais le problème, c'est que si je fais ça, je casse mon grille-pain et je casse le bonhomme qui est dans le bain avec. Ne faites vraiment pas ça chez vous, hein ? Eh bien, Dieu nous donne la Bible, Dieu, le créateur de toutes choses, nous donne à nous la créature, le mode d'emploi de comment on fonctionne, et ce mode d'emploi, c'est la Bible. Le monde ne veut pas avoir un mode d'emploi. Nous aussi, hein, on ne lit pas les modes d'emploi. Bon, ok, en dehors des extraterrestres qui sont dans notre église, là, qui lisent les modes d'emploi. Mais souvent, on n'a pas envie de lire de modes d'emploi. Non, 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 je sais comment ça marche, c'est bon, je le prends et j'y vais, je file. Et après, tu dis, oula, à quoi il sert ce bouton ? Alors, tu appuies. Alors, ma fille, elle vient d'avoir une petite montre, là. Et hier, je lui dis, tiens, tout est en anglais, tiens, attends, attends, à quoi il sert ce truc ? Et là, je venais de lui effacer tout ce qu'il y avait dans sa mémoire. Ok. Bon, je suis désolé, tiens, je te rends ta montre. Ok, je n'ai pas lu le mode d'emploi, je vous l'avoue. Mais du coup, la Bible, c'est ça. Et le monde ne veut pas avoir de mode d'emploi parce que le monde veut être libre. Et nous le sommes. Mais on peut faire ce qu'on veut. La Bible est là pour nous montrer, à l'aide du Saint-Esprit, comment nous fonctionnons. Et si nous n'écoutons pas le mode d'emploi, la Bible, alors c'est sûr, la créature va se casser. C'est sûr. C'est pour cela... La Bible, vous pouvez la croire. Quand la Bible vous dit qu'il y a un monde spirituel peuplé d'anges, c'est qu'elle a raison. La Bible vous dit que c'est la réalité. Le monde, lui, te dit non, 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 c'est pas la réalité. La réalité, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est physique. La réalité, c'est pas spirituel, mais la Bible nous dit si, ça fait partie de la réalité. Le monde écarte le mode d'emploi et malheureusement, nos églises se font tout doucement grignoter par les pensées du monde. J'ai discuté encore il y a 2 semaines avec une amie avec moi, on mangeait ensemble là, et elle me dit « Oh là 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 là, j'ai lu un super bouquin » et finalement, le bonhomme, il expliquait à l'intérieur que Marie, bah, en réalité, bon, elle n'était pas vraiment vierge. Mais c'est pas grave, ça n'empêche pas toute la naissance de Jésus et tout ce que Jésus il a fait de bien sur notre terre. Mais on ne peut pas croire à la virginité de Marie. Eh bien, si. Parce que si on ne croit pas en la virginité de Marie, ça veut dire que Jésus n'est qu'un homme, il n'est pas Dieu. S'il n'est qu'un homme, ça veut dire que Jésus est né avec le péché originel. Et si Jésus est né avec le péché originel, ça ne sert absolument à rien qu'il soit cloué sur une croix, parce qu'il ne peut pas, en aucun cas, nous sauver. Alors si Jésus n'est pas né d'une vierge, si Jésus n'est pas enfanté par Dieu, si Jésus n'est pas Dieu, qui n'échappe pas au péché originel, alors on est fichu. Si la Bible nous dit que Marie était vierge, c'est que ça a son importance et que c'est la réalité. Si la Bible nous dit qu'une étoile a guidé des étrangers, c'est que cela a son importance et que c'est la réalité. Vous comprenez ? Si Jésus est le Fils de Dieu, si Dieu a fait toutes choses bonnes et qu'il est le maître du temps et de la création, alors ne vous inquiétez pas pour la rédaction, de la mise en forme des différents conciles qu'il y a eu pour former la Bible. Dieu a gardé sa parole intacte jusqu'à maintenant. Et vous pouvez pleinement lui faire confiance. J'ai discuté avec un jeune de notre église, il y a encore quelques temps, justement sur l'inhérence de la Bible. C'est une question qu'on est en train de débattre ensemble, parce que je sens que pour nos jeunes, c'est compliqué l'inhérence de la Bible, l'infaillibilité de la Bible. Et il m'a répondu, tu sais Alexandre, je ne comprends pas tout. La création, par exemple, dans la Bible, pour moi, c'est compliqué. Et d'autres passages comme ça. Mais je veux faire confiance en la Bible. Je ne comprends pas, mais je sais que Dieu est plus grand que mon regard limité. Waouh. Ah ouais, entièrement raison. Ouais. Moi aussi, je ne comprends pas tout hein, de ce mode d'emploi, de ce qu'il nous dit, mais je veux lui faire confiance, car je sais que c'est pour qu'on fonctionne mieux. Mais finalement, en y réfléchissant, l'étoile de Bethléem, elle n'est pas essentielle. Elle veut juste nous montrer quelque chose. La Bible également, tous ces prophètes qui écrivent des centaines d'années avant, veulent juste nous montrer quelque chose. Jésus, Dieu fait homme, qui vient sur cette terre pour toi et moi, qui vient souffrir et mourir, car il sait que rien ne peut nous sauver, rien ne peut faire que tu puisses trouver du repos. Il vient pour que tu retrouves cette communion perdue avec Dieu. L'étoile de Bethléem, l'étoile, la Bible, elles sont là pour te montrer Jésus. Alors, si ce matin, tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, dans ton cœur, c'est le moment et je t'encourage tellement à le faire, car tout pointe vers lui. Tous les éléments de la nature, tout le monde spirituel pointe vers lui pour te le montrer et te dire « accepte-le comme sauveur, reviens à la maison près de Dieu ». Et il y a plusieurs façons dont Matthieu nous montre, il y a plusieurs façons d'accepter cette merveilleuse nouvelle. Alors il y en a quatre, il y a la façon Hérode. On tape dessus, on casse tout. Hérode, c'est ça, hein, il ne veut pas. Et il fait tout pour dénigrer, pour casser le message où les chrétiens qui ont accepté Jésus, alors dans le temps, ce n'était pas des chrétiens, hein, mais c'était des juifs encore, mais Hérode voulait garder le pouvoir et la richesse étaient bien plus importants pour lui que d'être sauvé par Jésus. Et c'est avec violence qu'il répond à cet appel. Et dans le monde, nous avons beaucoup de gens qui répondent à l'appel de Jésus par la violence, qui ne veulent pas regarder leur cœur qui est rempli de péché, hein, et qui, à travers leur péché, s'éloignent comme ça de Dieu. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, il suffit d'allumer la télé, les infos, pour comprendre toute la violence qu'il y a dans le monde. Et ne vous y trompez pas, la Bible nous dit, chaque fois que tu fais ça à un plus petit que moi, un de mes frères, c'est à moi que tu le fais. À chaque fois que tu réponds à la façon Hérode, que tu martyrises quelqu'un, c'est directement à Jésus que tu t'en prends. Il y a une autre façon de répondre à cette merveilleuse évangile, à la façon du peuple. Matthieu nous dit hein, que tout Jérusalem est troublé. Ok, alors ça, c'est normal. L'évangile, ça trouble. L'évangile, ça secoue. L'évangile, ça bouleverse le cœur. Et c'est normal. Mais pas un seul n'est allé voir à Bethléem si c'était vrai. Bethléem, c'est à 8 km, 2h30 à pied, gros max. 2h30 à pied et pas fichu d'aller voir si c'est vrai. Tout le peuple déteste Hérode, et malgré ça, ils n'y sont pas allés. Jésus nous appelle directement depuis tellement de temps, depuis tellement de générations, et on n'est pas capable de se poser des questions. Dire « Ok, je vais vérifier si ce que me dit la Bible est vrai, si ce que mes amis chrétiens, l'Église me dit, c'est vrai. Est-ce que ça vaut le coup d'aller marcher, d'aller voir ? Est-ce que finalement ce Jésus veut vraiment révolutionner mon quotidien ?» Alors oui, ça demande de se lever et d'aller marcher dans la Bible. Un petit chemin, de marcher ce chemin avec Christ et se poser des questions et de chercher des réponses. J'étais encore à la fête de Noël là, d'une entreprise que j'administre en informatique et puis j'étais assis en face d'un jeune comme ça, puis je lui pose des questions un peu sur sa foi et il me répond « Mais je m'en fiche totalement. » Et ce jeune, c'est pas le temps lui manquait, c'est que finalement, ça ne l'intéresse pas. Il ne veut pas se poser des questions. Et c'est C.S. Lewis qui, dans son livre « Tactique du diable », nous montre comment, par exemple, un vieux démon forme un jeune démon, une nouvelle recrue. Alors, c'est imagé, hein, d'accord ? C'est imagé. Mais c'est vachement sympa et c'est tellement populaire comme livre qu'il y en a beaucoup qui l'ont repris et qui ont repris ces passages-là et qui ont rajouté des choses. Et il y a une personne comme ça qui a repris. Alors imaginez, c'est ce vieux démon qui vient comme ça avec sa jeune recrue et qui lui dit « Bon, alors, assure-toi que ton protégé soit suffisamment distrait et occupé. L'important, c'est qu'il ne parvienne pas à méditer sur l'incarnation, cette vérité qui est terrible pour nous. » Heureusement pour nous, c'est que le potentiel de distraction, il est énorme. Donc, à ton tour de t'assurer qu'il ne rate aucune fête, ton protégé, aucun concert, qu'il aille à tous les événements. Si son calendrier n'est pas rempli, tu auras échoué. Épuise-le, fatigue-le de toutes les manières. Et si ça ne fonctionne pas, tu le noies dans un océan de divertissement. L'important, c'est qu'il n'ait ni le temps, ni l'occasion de réfléchir à la signification de la célébration de Noël.
Waouh, c'est bon, vous vous sentez... Moi, des fois, je me sens culpabilisé là, sur ce truc-là. Je me dis, mince, il faut que j'arrête de regarder des films et des choses comme ça.
Vous sentez qu'on est dans un monde où on a de moins en moins de temps pour réfléchir. On a moins en moins de temps et on a de plus en plus de distractions. Non, te pose pas. Tiens, regarde ça. J'ai un collègue à moi, il me disait que quand il roule les trains, il ne peut plus les rouler sans écouter quelque chose dans les oreilles, de la musique ou autre chose, parce que sinon, il est seul avec lui-même et ça lui fait peur. Waouh. Combien on n'a plus envie d'être seul avec nous-mêmes et de nous poser des questions essentielles. On est tellement happé. Et finalement, on ressemble tous un peu à ce peuple de Jérusalem dans le temps. Et je t'encourage tellement à aller voir. C'est tellement ironique, le texte de Matthieu. Dieu lui-même, en personne, vient naître à 8 kilomètres de toi. Et on est trop occupé pour y aller. C'est à deux pas de chez toi et on est trop occupé parce qu'il faut qu'on termine notre série. Ah ouais. Mais encore deux autres façons de réfléchir à cette bonne nouvelle et d'accepter cette bonne nouvelle, comme que Matthieu nous montre. Alors, il y a la façon expert. On a les experts de la loi, les pharisiens, les spécialistes de la religion, ceux qui connaissent, mais qui ont du mal à l'appliquer dans leur cœur. Eux non plus ne sont pas allés à Bethléem pour voir. Alors ils ne sont pas allés parce qu'ils manquaient de temps ou ils manquaient de foi. Non, ça c'est bon. Ils n'y sont pas allés parce qu'ils ont déjà la connaissance. C'est bon les gars, moi je connais, je n'ai pas besoin d'y aller. Je connais déjà tout ça. Je connais la Bible par cœur. Je n'ai pas besoin d'aller voir Christ. Je n'ai pas besoin de prier. Et il suffit de faire telle et telle chose pour être sauvé, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Et nous avons affaire à tellement de religions, tellement de pensées différentes dans notre monde, qui veulent nous montrer, mais regarde, il suffit que tu fasses ça, ou ça, et ça encore, et c'est bon, tu seras sauvé, il n'y a pas de problème. Non. Il y a tellement de religions qui te disent, il faut que tu fasses telle et telle chose pour aller vers Dieu, mais ce n'est pas ça. C'est Dieu qui vient chez nous. C'est Dieu qui s'incarne dans un petit enfant. C'est Dieu qui souffre à notre place. C'est Dieu qui est cloué sur une croix. Et c'est Dieu qui meurt à notre place. Ce n'est pas nous qui faisons. Nous avons juste à lui ouvrir notre cœur. Alors ce matin, je t'encourage à ne pas écouter les spécialistes de la loi. Je t'encourage à ne pas m'écouter moi. Mais toujours regarder si ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Enfin, pas ce qui est écrit dans la Bible est vrai, si ce que le spécialiste de la loi, le prédicateur, ce qu'il dit, c'est marqué dans la Bible. Parce que tellement trop souvent, on se trompe. Et il reste une dernière façon encore d'accueillir ce bébé à la façon mage. Alors les mages, nous ne savons pas vraiment d'où ils viennent. On peut se douter qu'ils viennent de Perse, peut-être de Babylone. Alors si les mages viennent de Babylone, par exemple, c'est 4 à 5 semaines de voyage à dos de chameau. C'est pas à côté, d'accord ? Alors moi, ce qui m'embête des fois, c'est que quand on discute de la nativité avec des personnes, ils minimisent un peu toujours l'ensemble. Vous savez, ce petit Jésus dans sa petite crèche, avec les mages qui viennent. Alors les mages, voilà, on les prend un peu des fois pour des neuneux, comme ça, ils viennent, ils ont vu une étoile, c'est n'importe quoi, et puis ils se cassent comme ça. Ça m'embête beaucoup. Parce qu'on ne comprend pas la réalité de ce qui s'est passé. Les mages, on parle de gens qui ont fait 5 semaines de voyage, qui ont traversé des dangers à travers le désert, à travers les brigands, à travers d'autres dangers. Et pourtant, ils partent et ils connaissaient les dangers. On parle de gens extrêmement cultivés, très intelligents, qui connaissaient la science, l'astronomie. On pense souvent à tort que c'était vraiment des ignorants. Et on pense souvent que dans le temps, les gens y croyaient en n'importe quoi. Mais quand je regarde souvent notre société, des fois je me dis, waouh, c'est aujourd'hui qu'on est vraiment des ignorants. Alors oui, ces mages, ils devaient forcément connaître les textes de l'Ancien Testament. Ils devaient forcément être en contact avec des communautés juives. À Babylone, par exemple, il y en avait beaucoup, hein, des juifs. Mais quel sacrifice ils ont fait! Quel sacrifice ils ont fait pour partir de chez eux, pour venir, non, pour venir. Et eux, ils savaient qu'il y avait le plus grand roi qui venait de naître. Eux, ils savaient qu'il y avait un avant et un après ce petit bébé. C'était les seuls qui sont à genoux pour adorer. Ce sont les seuls qui ont compris que ce petit Jésus est immense. C'est les seuls qui ont fait un sacrifice, un effort pour aller à la rencontre de Jésus. Alors oui, les mages ont vraiment tout compris dans cette histoire. Et c'est bien cette méthode, en quelque sorte, que je vous encourage à prendre. Alors pour résumer un peu ce chapitre 2 de Matthieu, Matthieu veut nous montrer que l'étoile est réelle. Elle veut nous montrer Jésus. Ce qui est dans la Bible est réel et elle veut nous montrer à travers les prophètes Jésus. Alors comment est-ce qu'on y répond ? À la méthode Hérode, à la méthode du peuple, à la méthode des spécialistes ou à la méthode des mages ? Tu abandonnes tout ? Tu te mets à genoux devant Dieu et tu lui offres ton cœur. Et je t'encourage tellement à prendre cette dernière solution. Amen. Je vais encore prier. Ouais, Seigneur Jésus, tu vois combien c'est bouleversant cette naissance, combien tu as bouleversé tellement de choses et combien maintenant encore 2000 ans après, tu continues à bouleverser nos cœurs. Mais même nous qui t'avons accepté depuis tellement d'années, des fois on se refroidit et des fois on ressemble à ce peuple de Jérusalem qui s'en fiche et qui n'ouvre plus ta parole pour t'entendre. Et permets-nous de toujours revenir. Encourage-nous tellement à avoir ce feu pour toi. Oui, Seigneur Jésus, permets-nous d'être un peu cette méthode mage pour venir à toi tel que tu es et nous offrir et offrir notre cœur. Amen.